Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdiwa. Je suis sur le site de la fête de la bière le 5 octobre 2013 avec Nico, le tenancier, on peut parler de ça, de la manivelle.
Un petit peu, oui, carrément.
Et qui fait partie des... combien de brasseurs invités, je ne me rappelle plus.
Alors, il y a 4 brasseurs locaux, 2 brasseurs qui ne viennent pas de la Drôme. Donc, il y a la Diwaze pour Michel Rémusa qui est à Die, la Bascule tenue par Bastien, la manivelle qui est tenue par nous, et la bière des Sgars qui est tenue par Alex à Ponté. Il y a la Frivole et la brasserie La Rebelle qui vient de Franche-Comté aussi.
Je te dis bonjour quand même.
Bonjour,
bonjour Nico.
Bonjour Louis.
Alors, quoi de neuf à la manivelle en ce moment?
Alors, quoi de neuf? Plein de choses. Déjà, la manivelle, depuis 2 mois, est disponible en fût de 20 litres. Donc, une grande nouvelle pour tous ceux qui adorent la pression. Et en plus, pour tous ceux qui auront une petite particularité avec un petit peu les bières fortes, nous sortons une bière à 13%, qu'on appelle un vin d'orge, très rouge, très puissant, qui va vous rappeler un petit peu des notes un petit peu particulières.
Et alors la bière en fût, vous maîtrisez la technologie parce que je sais qu'il y avait des fois où ça moussait trop ou...
Exactement. Alors c'est en cours de stabilisation, on y est presque. Mais les essais sont très concluants et ce que l'on propose à la fête de la bière, qui est la bière la 47, à 7%, qui est une bière très ronde et très aromatique, se porte très 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 bien en fût et sera très apprécié cet après-midi.
Et en fait, c'est une recette quand même un petit peu différente pour que ça puisse rentrer dans le fût, ou pas?
Exactement, oui.
Qu'est-ce qui se passe alors en fût?
Les fermentations sont plus longues, plus décomposées, les gardes aussi, un petit peu. Et la mise en fût est assez particulière, mais ça, c'est une partie un peu secrète que l'on se garde pour nous.
Est-ce que tu pourrais nous faire un petit historique pour les gens qui vous connaissent, mais qui ne savent plus très bien quand est-ce que vous avez commencé, etc.?
Alors, on a commencé avec Franck, Aurélien et moi en 2008, en juin 2008, avec juste le projet de monter une microbrasserie d'essai, c'est-à-dire de réaliser un grand nombre de brassins, tous plus diverses les uns que les autres, c'est-à-dire 130 bières aux saveurs, à la densité différente, aux degrés alcooliques différents, avec toujours de plus en plus de sensations. On a testé comme ça pendant 2 ans et fin 2011, on est passé à ce que l'on appelle une vraie microbrasserie, c'est-à-dire qu'on a installé Route de Romeyer, la manivelle telle qu'elle est actuellement, telle que vous pouvez tous la connaître et la déguster, et que maintenant nous avons quand même 10 recettes stabilisées, plus une qui va arriver au 15 novembre de cette année 2013.
Vous êtes parmi les poids lourds en matière quantitative. Vous avez des équipements parmi tous les brasseurs, les innombrables brasseurs, hein, ce qui fait une des spécificités du Diwa, puisqu'il y a une concentration de brasseurs assez hallucinante. Donc vous êtes ceux qui avaient le plus gros équipement. Est-ce que tu peux nous rappeler les quantités que vous pouvez être capable de sortir?
Elles sont aléatoires. Disons que cette année, on a fait 35 000 litres, que notre objectif était de 50 000 et qu'on n'a pas... qu'on ne s'y est pas tenu par non-nécessité, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin d'aller au-dessus pour vendre tout notre stock, mais que la brasserie tourne à 1/5 de sa production, c'est-à-dire qu'on pourrait tourner à 250 000 litres sans problème d'ici quelques années. Mais ce n'est pas forcément l'objectif, c'est-à-dire que pour l'instant l'objectif il est atteint, c'est-à-dire de faire des bières de qualité, toutes plus rebondissantes les unes que les autres.
Nous avons fait, il fut une époque, rappelle-toi, la superbe déambulation, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la manivelle, qui est toujours disponible à l'écoute sur le site. Et je me rappelle avoir visité cette brasserie avec des cuves qui dépassent les 3 mètres de haut quand même.
Oui, exactement. C'est pas si grand que ça. Après, ce sont des cuves impressionnantes parce qu'elles sont isolées de façon excessive. C'est-à-dire que les produits à l'intérieur ne subissent pas les aléas des climats différents, on va dire. Et après, oui, ce sont des cuves quand même de 1500 litres. Pour l'instant, on n'en a que 3 et que courant fin novembre, nous aurons 3 autres qui vont nous permettre l'année prochaine de monter aux objectifs des 50 000 litres, voire plus, si le Diwa et les alentours se prêtent au jeu, quoi.
Qu'est-ce qui vous retiendrait? C'est le fait de les écouler?
Ou c'est
le fait de les produire?
Non, c'est le fait de les produire et d'arriver à les faire vieillir et de les vendre au bon moment. Parce que comme on a quand même une spécificité, c'est-à-dire de faire 10 bières différentes, elles ont toutes des vieillissements qui sont différents les unes des autres. Et que selon, si on prend l'exemple de la 49 quand même, qu'il faut presque 90 jours pour être sorti, ça monopolise quand même une cuve pendant 90 jours. Donc on pourrait faire plus si on avait plus de cuves. Donc ça nous permettrait d'écouler plus vite, mais c'est pas le but. Parce que le but justement c'est que les bières arrivent suffisamment à vieillir pour que quand elles sortent, elles soient parfaites.
Et une fois que ces 90 jours sont écoulés, y a-t-il une date limite de consommation? Rappelle-moi, je suis pas si compétent que ça en matière de bière.
C'est complètement aléatoire parce que là sur la Brune 49, on peut partir pratiquement tabler sur des 10 à 15 ans de qualité optimale pour la boire. Boire après même, ça peut offrir des madérisations en bouche qui sont très appréciables, mais après ça dépend un petit peu des consommateurs. Et après pour la blanche, c'est vrai qu'il vaut mieux la consommer dans l'année que les blondes comme la 57-47 sur 2 ans, tout ce qui est ambré sur 3-4 ans. et qu'après ça dépend vraiment de la couleur et de la densité et du degré alcoolique. Parce que plus une bière a une teneur forte en alcool et plus elle va se comporter, on va dire, simplement dans le temps, c'est-à-dire qu'elle va évoluer de façon simpliste, ce qui fait que tous les arômes vont pouvoir se dégager mais aussi survivre. Alors que sur les bières légères, elles ont tendance un petit peu à s'altérer parce que la conservation ne se fait pas de manière optimale.
Alors au point de vue technique, je sais qu'à l'époque, vous aviez quelques soucis du style la ligne d'embouteillage. C'est réglé ce problème ?
Ah oui, complètement réglé.
Vous n'avez plus besoin de fermer le capuchon à la main ?
Si, toujours. Mais c'est une méthode qu'au début qui nous gênait beaucoup et que finalement, j'y porte beaucoup d'intérêt parce qu'elle nous oblige en fait à faire travailler plus de personnes et que du coup, c'est plus convivial. Les journées d'embouteillage, quand elles se passent à deux, sont assez monotones et quand elles se passent à cinq, sont vraiment, vraiment très rigolotes. Je vous conseille même de venir voir un jour pour vous rendre compte de l'énormité.
C'est ouvert au public, les sessions d'encapsulage ?
Ah oui, il n'y a pas de souci. Ouais.
Et vous recrutez des bénévoles, mais il ne faut pas le dire quand même.
Non, ce ne sont pas des bénévoles, ce sont tous des gens qui viennent travailler le mardi matin pour nous aider. Après, ils changent tout au long de l'année, ça dépend un petit peu des disponibilités des personnes, mais en gros, ouais, ça marche sur ce système-là. Quoi.
Une question que j'avais déjà posée, mais je vais te la reposer, c'est le fait de travailler avec des grandes cuves, ça n'empêche pas une qualité par rapport à des petites cuves, quoi ?
Non. Non, parce que j'aurais une tendance à dire au contraire, parce que l'homogénéité des brassins est plus régulière, comme on fait des brassins de quand même 1000 litres. Le fait de ne pas avoir des brassins de 200 litres et de les changer et d'en refaire régulièrement, ils sont plus homogènes, plus... Chaque brassin a une particularité, c'est-à-dire que selon le temps où on le fait, les levures qui ont des comportements différents dans le temps et puis l'eau qui peut être aussi différente peut engendrer des différences sur certains brassins. On peut noter d'ailleurs sur certaines bouteilles qu'il y a des bières qui sont légèrement plus amères ou moins amères ou plus fruitées que d'autres. Et ça, ce sont les aléas, c'est comme d'un raisin de 2011, 2012, 2013, ça ne sera jamais le même. Et bien, les brassins, c'est exactement la même chose. Donc plus on en fait de façon grande d'un coup et plus les gens sur une longue période vont se retrouver avec les mêmes bières. Ce qui serait un petit peu... après, c'est une... C'est une question d'appréciation, tout simplement.
Donc on peut dire que la 49 d'il y a deux ans, c'est la même que la 49 de cette année ?
Ah, 2% près, oui. 2%, j'exagère peut-être, mais 5% près, oui. Ouais.
L'un des fondateurs de cette aventure, la Manivelle, est en train de partir.
Oui, exactement.
Donc Franck, pour ne pas le nommer, Brocheton va te quitter. Oui. Est-ce que ça va conduire à une réorganisation du travail à l'intérieur de cette brasserie ?
Ah oui, forcément. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ça fait un an et demi que Franck assure tous les brassins de la Manivelle. C'est-à-dire que moi, personnellement, je n'en ai fait que 4. C'est à peu près les 70 que l'on a pu faire en un an et demi. Et que maintenant, c'est moi, Nicolas, qui va reprendre entièrement la production sur tous les brassins, en fait. Et que du coup, oui, forcément, ça va changer des choses aussi, ne serait-ce que sur les produits. Parce que chaque personne a une particularité, a une...
Une patte.
Une patte, exactement, une trace sur le produit qui fait que... Que le produit est exactement comme vous le voyez là. Donc oui, il y aura des différences, mais on essaiera qu'elles soient aussi bien que ce que c'était avant.
Parce que je suppose qu'il y a une recette que tu suis à la lettre. Enfin, il faut mettre tant de trucs, on attend tant de temps.
Il y a toujours des recettes qu'on suit à la lettre. Mais comme je disais il y a 5 minutes, il y a toujours les aléas de l'eau, qui peuvent être aléatoires, les aléas du temps, des levures et la façon du process. Il suffit qu'on ait loupé 5 minutes dans la cuisson ou que la filtration se soit passée différemment et que pour que le produit subisse, pas une altération, mais une modification sur la finalité. Quoi.
Et alors ça te fait peur de reprendre cette partie de production ?
Non, pas du tout, parce que c'est une partie justement qui commence à me manquer. Quoi. Ouais, c'est très intéressant. Hein. Le brassin, c'est une relation entre le grain, l'eau, les levures, le fait de le travailler et puis la personne au final qui va goûter la bouteille. Et donc, plus on est assidu sur ce travail-là et plus les gens sont contents au bout. Donc oui, c'est une corrélation très intéressante.
Mais est-ce que tu auras le temps de tout faire ? Parce que c'était aussi toi qui te chargeais de l'administratif et du commercial.
Oui.
Comment vas-tu faire ?
Et bien là, justement, on est en train de modifier un peu ça. C'est-à-dire que moi, je m'occupais plus de la commercialisation et on va dire de la médiatisation de la Manivelle et que là, ça va être Émilie qui va reprendre en partie ce travail, qui va s'occuper aussi du dépôt. Et qui donc va être secondé aussi par moi, hein, mais qui sera à part entière responsable de ça. Quoi. Voilà.
Est-ce que SOS Manivelle sera toujours opérationnel ?
Toujours, il l'est encore.
C'est-à-dire qu'on peut vous appeler à quasiment n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour avoir une caisse
À part si je dors profondément et que le téléphone ne me réveille pas, oui. Mais essaye, Louis, on verra.
Bon, je passe par le magasin qui, on peut le rappeler.
Il fait office aussi de SOS Manivelle, c'est-à-dire que le magasin, le dépôt se trouve en centre-ville et qu'il est à proximité des gens et que je trouve ça très important. Hein.
Tu n'es pas sans savoir que l'État, qui a besoin d'argent, a fait une taxe supplémentaire sur la bière l'année dernière.
Oui, l'année dernière.
Vous étiez tellement fier d'avoir une bière à 3 euros et maintenant elle est passée à 3,40.
Non, 3,30. La bouteille de 75 centilitres. Et qu'on va essayer de faire perdurer dans le temps à ce tarif-là, parce qu'à 3 euros, on n'aurait pas pu tenir, vu l'augmentation des 160% sur les taxes douanières en France, c'était impossible de garder la bouteille à ce tarif-là.
Et donc, est-ce que vous avez pu constater, suite à cette taxe, une baisse de votre chiffre d'affaires ?
Vaguement au début de l'année. Je pense pas sur juillet-août, et après dans le temps, ça sera à voir. On peut pas avoir de recul sur 6-8 mois, il faudrait voir sur 2 ou 3 ans et faire des calculs précis. Je peux pas t'en dire plus en tout cas.
En tout cas, avec ces tarifs qui, somme toute, parce que vous ne maîtrisez pas cette taxe, sont assez minimes, vous en sortez financièrement ?
Oui.
C'est-à-dire que vous pourriez donc renoncer au travail de Franck, réorganiser l'équipe et il n'y a pas de problème, ça passe financièrement ?
Oui, ça passe financièrement, tout à fait.
Alors donc, tu es bien content d'être cette deuxième édition de la fête de la bière ?
Oui.
Qu'est-ce que ça représente pour toi ?
Qu'est-ce que ça représente pour moi ? Ça représente plein de choses, c'est la convivialité, on est tous là présents pour la deuxième édition de la fête de la bière ce 5 octobre 2013 à Minglon, il est même 14h pour être précis. Et que et l'année dernière, on a ouvert de 16h à 1h du matin, que ça s'est super bien passé, qu'on a accueilli quand même une énorme quantité de personnes. Et que là, on a décidé de la faire commencer à midi ou à peu près. Et qu'il y a déjà une affluence assez impressionnante.
Avec un certain nombre d'animations dignes de ce nom.
Oui.
Je suppose que les gens ont entendu dans les micros des fois les balances de je ne sais qui. Et sur
je pense.
Voilà,
la guinguette.
La guinguette de Cathy et Gérard qui se préparent.
Oui.
Tu m'as dit que tu lançais des bières, mais sinon, d'autres projets pour la manivelle ?
Pas tout de suite. Et je préfère pas en parler tout de suite parce que ce sont des projets qui vont se... Ce sont des tout petits projets pour 2014, des fûts différents, des manières de commercialiser différentes, des bières qui seront aussi différentes en fût ou en bouteille, mais ça je vous laisserai le découvrir en temps voulu.
Et cette histoire d'un lieu convivial dans le site même de la brasserie ?
Et pour l'instant il est en stand-by et je ne peux pas du tout vous en dire plus. Donc, les réflexions futures vont vous en apprendre ou vous dire qu'il ne se passera rien, mais je ne peux pas m'avancer là-dessus en tout cas.
Comment expliquerais-tu cette efflorescence un peu extraordinaire de brasseurs dans le Diwa ? Pourquoi et qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup autant de gens se soient lancés dans la bière ? T'as une idée ?
Oui et non, je pense pas que ce soit lié forcément au Diwa. Je pense que le Diwa est très ouvert. Donc peut-être la facilité d'implantation, je sais pas, mais après je pense pas que ce soit le problème. En France, on a une recrudescence de brasseries qui est impressionnante. Nous sommes 476 brasseries. En France actuellement, et il y a 2000 projets rien que pour les deux prochaines années. Donc ce qui laisse prévoir quand même un sacré nombre de brasseries qui vont s'ouvrir, notamment en ville, les grandes villes, Lyon, Valence, Paris, ne serait-ce que Mulhouse ou Brest ou Lille encore, qui vont aller dans le sens où les micro-brasseries vont reprendre le pied à l'estrier, c'est-à-dire qu'elles vont travailler de façon à ce que les micro-brasseries soient présentes sur tout le territoire et que les gens puissent aller de brasserie en brasserie pour déguster des produits de plus en plus différents, parce que plus on est nombreux et plus on s'offre la réflexion de se dire il faut encore qu'on fasse des produits encore différents, encore et encore et encore. Donc on va pas rester sur nos acquis et travailler d'arrache-pied à ça quoi.
Et puis Canterbro et Cronenbourg ont du souci à se faire parce qu'au niveau qualité il n'y a pas la photo enfin.
Le débat il a été ouvert il y a quelques années, ça c'est sûr, on peut pas revenir là-dessus. Je pense que les grandes bières n'ont pas forcément du souci à se faire. Je pense que surtout, il faut qu'ils lâchent du mou, c'est-à-dire qu'ils comprennent que n'y a pas que eux dans la vie et qu'il faut que les petits vivent aussi. Et que c'est parce que les petits vivent que les gens apprécient les bons produits. Quoi.
Pourquoi tu as l'impression que les grands brasseurs prennent ombrage du fait qu'il y a beaucoup de...
Commercialement parlant, oui. Ils sont présents partout, ils ont des prix qui sont largement en dessous de nous et pas tout le temps, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Mais ils sont quand même présents dans le monde entier. On peut en trouver en... Je sais pas, moi, on peut prendre l'exemple de Carlsberg, on les retrouve aux États-Unis, en France, en Belgique, en Suisse, dans l'État européen, africain, tu vas en Nouvelle-Zélande, t'en trouves, c'est mondialement connu. Une microbrasserie ne dépassera jamais le niveau local, et si elle le fait, c'est pour aller sur des points hyper précis, c'est-à-dire que, prenons mon exemple, nous on va de temps en temps à Lyon, on va de temps en temps à Valence, on a eu quelques bières qui sont parties en Belgique, mais c'était une poignée, et c'était pour faire connaître notre produit à d'autres gens. Eux, ils n'ont pas besoin de tout ça. L'effet de masse, c'est un monopole, mine de rien. Ils ont le monopole.
La manivelle est souvent présente dans des événements. Vous aimez bien participer justement à des événements festifs, je pense à la caisse à savon, voire je ne sais où encore.
Bien sûr, à Psycho By Dub et bien d'autres. Il y a des festivals qui sont organisés à la Griotte où on est régulièrement présent. Oui, il y en a plein. Et oui, oui, on aime ça. Et oui, j'aime être présent en plus sur le site pour accompagner mes produits.
Ne serait-ce qu'au niveau du volume écoulé, peut-être ?
Non, oui, oui, ça, on peut pas. C'est sûr que c'est toujours bon à prendre, mais il y a quand même le côté relationnel, quoi. J'aime passer des soirées avec les gens, notamment avec toi, Louis.
Oh, tu es trop bon.
Baptiste. Monsieur qui est à côté de moi, qui est en train d'avoir un petit sourire sympathique.
Laurent, pour
Laurent,
le nommer.
Ouais, exactement.
Qui est un fervent consommateur de manivelles ?
Ah, il a ses préférés, hein.
Ah si, ça y est, c'est bon.
Ah, il l'a, c'est bon.
Voilà,
on récupère le lot.
Fervent consommateur, fervent défenseur de la bière artisanale, voilà. Que dire de plus ?
C'est toujours difficile, mais y en a-t-il que tu préfères à d'autres ?
À l'IPA.
L'IPA. Indian Pale Ale.
Voilà.
On pourrait même rappeler un petit peu ce que ça veut dire, c'est intéressant.
Ah ben, vaguement, pour faire court, en fait, les Indian Pale Ale, IPA, ou IPA, ça dépend un petit peu comment on le prononce, c'était des bières que les Anglais avaient fabriquées, en fait, pour pouvoir être transportées en bateau jusqu'en Inde. Et que le temps du voyage, les bières qu'ils faisaient initialement n'étaient pas assez houblonnées, dans le sens où l'houblon est un antiseptique très puissant naturel. Et que du coup, en fait, ils avaient trouvé cette astuce, c'était de multiplier par 10 en fait, la dose de houblon qu'on pouvait rajouter dans le produit bière, quoi, pour qu'elle puisse être transportée pendant 6, 8 mois, un an et demi, 2 ans. Et qu'elles arrivent à bon port et qu'elles puissent être dégustées de façon...
Sans qu'elles explosent à la fin.
Pas forcément qu'elles explosent, qu'elles soient complètement daubées par le transport. Ils traversaient quand même toutes les mers africaines, donc il y avait des températures assez excessives et que du coup, même les produits avec de l'alcool arrivaient à pourrir, quoi.
Comment as-tu retrouvé cette recette alors ?
Oh bah, on ne les a pas retrouvées. Les Indian Pale Ale sont fabriquées par un très grand nombre de brasseries, notamment les Anglais, mais de plus en plus en France. Et que par attrait du goût, en fait, on s'est lancé là-dedans.
Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Il semblerait que toutes les brasseries ici présentes suivent des recettes belges. Le seul dans le Diwa qui ferait des recettes irlandaises, c'est la Tulière, mais qui n'est pas présent. Il sera présent l'année prochaine.
D'accord.
Est-ce que tu vas te lancer dans les recettes irlandaises ?
Alors, les recettes irlandaises, on en a déjà une.
Ah.
Bon, la 49 est un peu basée là-dessus. C'est-à-dire que les stouts irlandaises ont la particularité d'être très fortement torréfiées. Donc, une grande partie en fait, du brassin, du malt en fait, qui est utilisé dans le brassin, est plus torréfiée que la moyenne. Donc, ce qui leur confère des goûts un petit peu plus doux. On a tendance à les faire moins amères, parce que les Irlandais les font très peu amères. Un tout petit reproche sur l'Irlande, c'est qu'ils font des bières un petit peu plates et qu'on n'a pas trop l'habitude en France, qui sont moins tolérées par la France. Et que même si je me rapproche un petit peu de cette recette-là, on a tendance à les faire plus pétillantes quand même. Oui.
Un peu plus de gaz.
Oui, un peu plus de gaz. Parce que je crois que la France aime bien le gaz.
Ah oui, c'est vrai que bon, le lendemain, on peut avoir des gaz.
Ouais.
Mais bon, c'est nourrissant quand même. Et il paraît qu'il y a quelqu'un qui aurait dit ça, j'ai entendu ça dans l'interview de Lily tout à l'heure, qui disait que la bière, c'était de l'amitié liquide.
Oui, c'était... c'est exactement ça, oui.
Très belle expression.
Oui, exactement.
On a parlé de SES Manivelle et on a dit aussi qu'il y avait une petite échoppe en face de la cathédrale. Oui. Mais est-ce que tu voudrais laisser des coordonnées téléphoniques pour que les gens puissent te téléphoner afin de les dépanner en cas d'urgence ?
Ah oui, bien sûr, oui, carrément. Le SES Manivelle marche au... Alors c'est moi, Nicolas, qui assure ça. Je n'engage pas les autres parce que c'est moi qui l'ai lancé. Et donc vous pouvez tous me contacter au 06 73 40 51 95. Voilà, je vous souhaite bonne chance.
Et d'autre part, est-ce que tu organises des visites de ta brasserie ?
J'organise des visites de la brasserie, oui, bien sûr. Le mieux étant encore de me téléphoner avant, parce que vu qu'on est en réorganisation un petit peu du travail à la manivelle, les horaires d'ouverture sont un petit peu aléatoires, voire inconnus. Donc si vous avez le temps, appelez-moi, je répondrai.
Bon, bah écoute, Nico, je vais te laisser continuer à vendre tes manivelles. Ça part bien, là ?
Déjà, il y a eu 200 personnes... d'entrée depuis midi, donc ça fait 2 heures qu'on est ouvert et oui, ça se présente très bien. Mais on va y retourner.
Bah oui, hein, grosse journée je suppose, jusqu'à dernière bière, 2h30.
2h30, dernier verre, et ça sera vraiment le dernier.
Et bah écoute, merci d'avoir répondu à ces questions et
merci,
je te souhaite une bonne continuation.
À bientôt.
Et longue vie à la brasserie artisanale de Didier.
À plus.
Merci à tous.